VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du lundi 11 juillet 2016. En direct de Washington, Idrissa Sedulia et Arnold Botson. Tout d'abord les titres.
Soudan du Sud, tir sporadique ce matin à Djouba, où les affrontements de dimanche entre les partisans de Salva Kiir et ceux de Riek Machar étaient très violents.
Au Tchad, l'opposition a appelé la communauté internationale à reconnaître, je cite, « la nature dictatoriale du régime du président Idriss Déby ».
En République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra a averti que le pays est toujours en danger, des régions entières étant encore contrôlées par des groupes armés.
Dallas, le président Barack Obama a appelé les Américains au respect mutuel après la mort de 5 policiers et celle de 2 Américains africains-américains dans des confrontations avec la police. Et ne manquez pas le journal de l'Euro 2016, le dernier avec Nicolas Pineau ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Au Soudan du Sud, des tirs sporadiques pouvaient être entendus ce matin dans 2 quartiers de la capitale, Djouba, au lendemain d'une journée de violents combats. Selon un journaliste de l'AFP, les armes s'étaient tues dans la nuit, tandis que des pluies orageuses s'abattaient sur la capitale, rendant encore plus précaire la situation des personnes ayant fui leur foyer pour s'éloigner des combats. Sur les radios, un appel à la cessation des hostilités par l'influent Conseil des Églises du Soudan du Sud tournait en boucle depuis dimanche. « Nous condamnons tous les actes de violence sans exception. Il est révolu le temps de porter et d'utiliser des armes. À présent, il s'agit de construire une nation pacifique », écrivent les leaders religieux dans ce communiqué radiodiffusé.
Tout au long de cette journée, les troupes loyales au président Salva Kiir ont combattu les ex-rebelles du vice-président Riek Machar, cantonnés dans la capitale en vertu d'un accord de paix signé en août 2015. L'ONU a fait état de tirs de mortiers, de lance-grenades et d'armes d'assaut lourdes à Djouba. La présence d'hélicoptères de combat et de chars a également été signalée. Des milliers d'habitants de la capitale se terraient chez eux ou fuyaient leur maison, selon des témoins.
On ignore le nombre de victimes des combats de dimanche, mais d'après plusieurs médias locaux citant le ministère de la Santé, 270 personnes, combattants et civils, ont péri dans de premiers affrontements vendredi après-midi. Les combats de dimanche, au lendemain du 5e anniversaire de l'accession à l'indépendance du Soudan du Sud, font craindre une reprise des combats à grande échelle dans ce pays déchiré depuis décembre 2013 par un conflit dévastateur qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts et près de 3 millions de déplacés.
Dans la soirée, les États-Unis ont réclamé la fin immédiate des combats et annoncé le retrait de Djouba de tout le personnel de leur ambassade jugé non essentiel. Dimanche après-midi, l'aéroport de Djouba était fermé. Lundi matin, les vols au départ de Nairobi vers Djouba avaient été annulés.
L'opposition tchadienne a appelé dimanche la communauté internationale à reconnaître la nature dictatoriale du régime du président Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 1990, qualifiant de passage en force sa réélection en avril. Le front de l'opposition pour la République, le changement et l'égalité, Force, dénonce dans un communiqué une situation sociale explosive et réclame une nouvelle élection libre, transparente et crédible sous les auspices de la communauté internationale. Mahamat Barbéchir est le coordonnateur national de la coalition Force.
Nous appelons tout le pays à condamner ce coup d'état électoral, ce passage en force qui s'est soldé par la mort d'ailleurs de nos concitoyens. Des militaires ont été torturés, tués parce qu'ils ont voté pour l'opposition. C'est quelque chose qui n'a jamais vu ailleurs dans aucun des pays où il y a eu des élections.
Alors de quels moyens disposez-vous aujourd'hui pour amener le changement au Tchad?
D'abord, c'est notre peuple, la détermination du peuple tchadien, la détermination de la jeunesse patriotique tchadienne. Les Tchadiens aujourd'hui sont à bout. Ils veulent le changement et ils veulent que ce changement puisse passer d'abord par l'alternance et par la voie pacifique. L'État n'a connu que la violence comme mode de résolution des problèmes. Et aujourd'hui, notre peuple a une certaine maturité politique et ils sont capables de prendre leur destin en main par la voie pacifique.
C'était Mahamat Barbéchir, coordonnateur national de Force, une coalition de l'opposition tchadienne.
La République centrafricaine est toujours en danger avec des régions entière, contrôlée par des groupes armés, a averti le président Faustin Archange Touadéra en faisant ce week-end le bilan de ses 100 premiers jours au pouvoir. Dans un discours retransmis par les médias, le président Touadéra a demandé la levée totale de l'embargo sur la commercialisation des diamants qui, a-t-il dit, a privé l'État d'énormes ressources et encouragé le trafic illicite. Écoutons la réaction de Noël Ramadan, secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des travailleurs de Centrafrique, l'USTC.
La situation s'améliore un peu, mais l'attente de toute la population, y compris les travailleurs, c'est la question sécuritaire. Cette question sécuritaire-là nous préoccupe tous. Or, jusque-là, nous ne voyons pas encore un début de solution par rapport à ça. Quand bien même il y a des discussions avec les groupes armés en sourdine, mais nous constatons que c'est encore le statu quo, puisque ces derniers temps, ici et là, il y a eu des cas d'assassinat, il y a eu des cas de séquestration. Ça nous inquiète. Bon, maintenant, la reprise du travail sur l'ensemble du pays est conditionnée par rapport à la question sécuritaire. Il y a des zones aujourd'hui pratiquement où les fonctionnaires, agents de l'État, il leur est difficile d'aller, à l'exception quelque peu des enseignants et des travailleurs de la santé, mais les autres secteurs, hein, c'est difficile.
Noël Ramadan, secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des travailleurs de Centrafrique, l'USTC, joint à Bangui.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'ancien soldat noir qui a tué 5 policiers et en a blessé 7 autres à Dallas préparait une attaque à la bombe dévastatrice. C'est ce qu'ont annoncé hier les autorités. Elles ont appelé au calme après l'arrestation de plus de 200 personnes lors de manifestations dans plusieurs villes dans la nuit de samedi à dimanche.
Le président Barack Obama a appelé les Américains au respect mutuel après la mort des policiers et celle de 2 Africains-Américains dans des confrontations avec la police auparavant. Les précisions de Timothée Donangmaï.
S'exprimant dimanche à Madrid, en marge de ses entretiens avec le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy, le chef de l'exécutif américain a exprimé le vœu que les manifestants, tels que ceux du mouvement Black Lives Matter, les Vies des Noirs comptent, et les organisations de policiers à travers les États-Unis s'écoutent les uns les autres pour s'édifier mutuellement. Le maintien d'un ton sincère, sérieux et respectueux va aider à mobiliser la société américaine pour apporter un vrai changement. C'est cela notre ultime objectif. La violence contre la police de la part de quiconque se dit préoccupé par l'équité du système judiciaire dessert la cause, a souligné le président Obama. Le chef de l'exécutif américain qui effectuait sa première visite présidentielle en Espagne l'a abrégé pour pouvoir se rendre à Dallas suite au meurtre la semaine dernière de 5 policiers par un ancien soldat africain-américain et ce, en représailles à la mort de 2 Noirs dans des confrontations avec des policiers.
Les forces rebelles syriennes ont échoué hier dans leur tentative de rouvrir la dernière route d'approvisionnement vers leur quartier dans la ville d'Alep. Elles ont perdu une trentaine de combattants au cours de violents combats. Les forces du régime étaient parvenues jeudi à couper de facto cette route, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Le ministre égyptien des Affaires étrangères a rencontré hier le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour tenter de relancer les négociations de paix israélo-palestinienne à l'occasion de la première visite d'un chef de la diplomatie égyptienne en Israël depuis 9 ans. C'est une période charnière pour le Moyen-Orient, avait déclaré Sameh Shoukry avant la rencontre à Jérusalem.
La Corée du Nord a menacé aujourd'hui d'engager une action physique contre un bouclier antimissile américain que Séoul et Washington veulent déployer en Corée du Sud. Les États-Unis et la Corée du Sud avaient annoncé leur décision vendredi, sans préciser la date ou le lieu prévu du déploiement du système avancé antimissile THAAD, Terminal High Altitude Area Defense, pour faire face aux menaces croissantes de Pyongyang. Fin de ce journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
On passe au sport à présent dans cette émission avec le journal de l'Euro, le dernier avec Nicolas Pinault. Bonjour Nicolas.
Bonjour Vanessa.
Le Portugal sur le toit de l'Europe.
Le Portugal, champion d'Europe de football. La sélection portugaise s'est imposée 1-0 au bout de la prolongation hier face à la France. Grâce à un but d'Eder à la 110e minute, les Portugais remportent le premier titre de leur histoire et plongent la France dans une tristesse inouïe, comme nous l'explique notre correspondant à Paris, Christian Mpanzu.
Incrédule, perdu sur la pelouse du Stade de France, les Bleus ne réalisent pas qu'ils viennent de laisser échapper leur finale. Le match qui devait sacrer toute une génération. Dans les tribunes, les visages des supporters de l'équipe de France sont fermés. Les plus émus laissent couler des larmes de tristesse. Un contraste saisissant avec l'immense joie des Portugais. La fanzone de Paris, qui abritait 90 000 fans près de la Tour Eiffel, s'est très vite vidée. Les Français, pourtant si enthousiastes avant la rencontre, ont perdu toute leur passion. L'avenue des Champs-Élysées, qui a été bloquée pour anticiper la fête, a finalement été le lieu de célébration des supporters du Portugal, mais a aussi vu quelques casseurs en découdre avec la police. Tout était pourtant réuni pour couronner les hommes de Didier Deschamps, un Deschamps abattu, très touché par cette cruelle défaite. La reconstruction sera difficile. Dès le mois de septembre, l'équipe de France devra débuter sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2018. Depuis Paris, Christian Mpanzu pour VOA Afrique.
Et cette victoire, c'est aussi celle du meilleur joueur du monde, Cristiano Ronaldo.
Sorti sur blessure en première mi-temps, l'attaquant du Real Madrid remporte son premier titre majeur avec la sélection portugaise. C'est un des moments les plus heureux de ma vie, au niveau de ma carrière de joueur professionnel, a déclaré Cristiano Ronaldo après sa victoire. Avec ce premier titre, le Portugal rompt avec la malédiction qui frappait la sélection depuis des décennies. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin.
Bonjour. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les dieux du football auront utilisé avec malice jusqu'au bout l'art du contre-pied durant cet Euro 2016. Que de résultats inattendus, que de surprises, cette éternelle bête noire enfin battue, pour ainsi dire, tout y est passé. On a vu, pour leur première participation respective, l'Islande et le pays de Galles atteindre les quarts et les demi-finales du tournoi. L'Allemagne a mis fin à une longue malédiction contre l'Italie avant de subir le même sort face à la France, elle-même battue en finale à domicile par son éternelle victime, le Portugal. On le voit, une compétition à déconseiller aux cardiaques. Pour le bouquet final au stade de Saint-Denis dimanche, l'enjeu a tué le jeu. Le Portugal ayant continué à jouer et son football peu spectaculaire et a proposé un modèle de match défensif fait de ruses tactiques et de coaching opportun qui a fait de jouer une équipe de France plus venue pour fêter la victoire que jouer une finale. La victoire du Portugal ne récompense pas l'équipe la plus brillante de l'Europe, mais plus globalement un grand pays de football toujours bien placé mais jamais gagnant. Le dernier prince sans couronne du football européen, enfin un trône, et cela n'est que justice. À bientôt.
Le reste de l'actualité sportive, en bref, la CAN Junior.
Les matchs allés du dernier tour qualificatif pour la CAN des moins de 20 ans en 2017 ont eu lieu ce week-end. Le Sénégal s'est imposé à domicile face au Ghana 3-1 et le Mali a rapporté un nul du Burkina Faso 0-0. La Gambie et la Guinée se sont séparés sur le même score 0-0 au stade de l'indépendance de Bakao. Quant au Cameroun, il a fait un grand pas vers la Zambie, le pays organisateur de cette CAN 2017 des juniors. En match aller, les Lionceaux ont sèchement battu la Libye sur la marque de 3-0. C'était samedi à Bafoussam.
Le Tour de France cycliste.
Parti au pied de l'ultime ascension, Tom Dumoulin a remporté dimanche l'étape reine des Pyrénées à Andorre-Arcalis dans des conditions météo épouvantables. Chris Froome de l'équipe Sky, ayant maîtrisé les offensives de ses rivaux, conserve son maillot jaune.
C'était le journal de l'Euro, présenté par Nicolas Pinot.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seroudia, nous passons à nos dossiers du jour. Au Gabon, entre 30 000 et 50 000 personnes, selon les sources, ont assisté ce week-end à Libreville à un meeting du président sortant Ali Bongo, qui s'est officiellement porté candidat à la présidentielle d'août prochain, après avoir déposé sa candidature devant la commission électorale. Notre correspondant Jean-Revis Dabani a assisté à ce meeting.
Au rythme de la musique, plusieurs milliers de personnes étaient descendues dans la rue samedi pour soutenir le président sortant. Patience, vêtue d'un t-shirt à l'effigie du président Ali Bongo, est l'une d'entre elles. Pour la jeune femme, la polémique sur les origines de son candidat ne l'intéresse pas.
Nous sommes tous venus pour supporter notre candidat. Et puis bon, on attend la campagne et puis on espère qu'il sera élu.
De retour au Gabon, après des études au Ghana, Ludilia, qui est venue assister au meeting, avance un autre motif pour ne pas voter pour le président sortant.
En 7 ans, il n'a rien fait, les mêmes promesses. Que, voilà quoi, nous, le peuple en souffre. On ne s'en sort pas, il fait des promesses sur la jeunesse et tout. Moi, je suis, j'ai une licence en communication marketing. Ça fait 3 ans que je suis rentrée, je n'ai pas d'emploi. Donc, il plaide pour la jeunesse, mais jusqu'ici, je n'ai pas d'emploi. Donc, non, merci.
Sur un podium devant une foule acquise à sa cause, Ali Bongo brandit le récépissé de la Commission électorale nationale autonome et permanente.
Est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous me connaissez? Est-ce que je suis un étranger? Est-ce que je viens d'ailleurs? Je viens d'où? Je viens d'où? Je viens d'où?
Mais alors que le président sortant s'exprime, quelques 150 opposants manifestaient en contrebas du rond-point de la démocratie sous haute surveillance policière. Il s'était donné rendez-vous pour empêcher Ali Bongo d'aller déposer sa candidature devant le siège de la commission électorale située à une dizaine de mètres de là. Comme leur leader, Jean-Steve Okimbi est l'un des opposants qui contestent le principe même de la candidature du président sortant, dont ils disent qu'il est un enfant nigérien adopté par Omar Bongo à la fin des années 60.
Ali Bongo, appelons-le par défaut par ce nom, est incapable de prouver sa nationalité ou de nous donner un acte de naissance qui soit cohérent, qui soit valable. Nous sommes là pour l'empêcher de violer pour la deuxième fois la souveraineté de l'État gabonais.
Mais alors que la tension monte, les manifestants commencent à jeter des pierres sur les forces de l'ordre qui répliquent par des tirs de gaz lacrymogènes. 2 policiers sont légèrement blessés, 2 véhicules incendiés, 20 de manifestants sont interpellés selon la police. À 2 jours de la date butoir de dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 27 août, Jean Ping, Guizou Bandama, 2 des 3 poids lourds de l'opposition ont déjà déposé leur candidature. Libreville, Jean-Revis Dabani, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
En République démocratique du Congo, rebondissement dans le dossier de l'or de la rivière Ulundi. Après la société civile de Chabunda, c'est au tour de la notabilité élargie aux leaders des jeunes, les confessions religieuses, la société civile et les autorités locales d'opter pour la suspension sans délai des activités d'exploitation de la société minière Kunhu Mining. Et précisons-le, avec obligation de dédommager la population à hauteur de 10% du total du montant produit jusqu'à ce jour dans l'exploitation de l'or par cette société. Reportage de notre correspondant sur place, Ernest Mujero.
Ces recommandations ont été formulées à l'issue d'une réunion extraordinaire convoquée en urgence le jeudi 7 juillet à Chabunda Centre, après les révélations faites par Global Witness au sujet d'une exploitation illicite de l'or par l'entreprise chinoise Kunhu Mining le long de la rivière Ulindi. Le président de la société civile de Chabunda, Joseph Mpeseni, ajoute que la même notabilité de Chabunda exige l'ouverture des actions judiciaires à l'encontre de cette société qui, selon Global Witness, a soutenu des groupes armés raillés à Mutomboki pour avoir les contrôles de ces sites aurifères. Joseph Mpeseni.
À ce jour, toutes les représentations de la communauté sont en train de solliciter la suspension immédiate de l'exploitation de minerais par la société KHM et l'indemnisation de la population de 10% sur les montants produits pendant toutes les 3 années. On demande aussi au gouvernement congolais de cesser de protéger les intérêts des Chinois illicites Enfin, on a aussi fait une recommandation au procureur général de la République d'ouvrir une action tout en donnant ordre au chef du parquet en place d'arrêter ceux-là qui ont fourni des armes au profit des groupes armés.
Quant au gouvernement provincial du Sud Kivu, pointé du doigt dans le même rapport de Global Witness comme quoi il aurait laissé faire cette mafia, le ministre provincial des Mines, Apollinaire Boulindi, rejette en bloc ces accusations.
C'est du n'importe quoi. Et encore des déclarations tendancieuses sans qu'il y ait de preuves. On s'attaque aux individus, mais ce n'est pas ça le rôle d'une ONG.
Est-ce que cette société travaillait sans que le gouvernement soit au courant?
La société chinoise avait le droit de faire un protocole d'accord avec une coopérative qui va agréer par le gouvernement. Global Witness a pris tout simplement les rapports de COSOC, de la société civile, qui a en majorité formé des opposants, et en a fait sien. À cette époque-là, il n'y avait pas de site orifère qui était qualifié. Le gouvernement ne contrôle pas l'or des bandes armées. Le gouvernement contrôle la traçabilité de l'or propre provenant des sites verts. Et donc, cet or-là ne pouvait pas engager le gouvernement, contrairement à toutes les affirmations gratuites de Global Witness.
Le point focal en RDC de la coalition, la société civile de la région de Grand Lac contre l'exploitation illégale des ressources naturelles COSOC GL salue les conclusions des Global Witness et appelle les autorités congolaises à prendre les dispositions qui s'imposent. Safanto Boulongo.
Quand vous lisez le rapport Global Witness, et nous on l'avait déjà souligné bien avant, vous trouvez de l'implication de cette entreprise-là dans le financement des groupes armés. Et ça, c'est inadmissible à ces jours. L'entreprise, non seulement elle ne payait pas de taxes à l'État congolais, mais aussi pas même d'obligations liées aux exigences internationales auxquelles la RDC a souscrit. Sur le plan social, les conditions de vie se sont empirées. Les derniers rapports émanant des structures médicales parlent d'un regain du taux de contamination VIH/SIDA qui est passé de 3% à 11%. On ne peut pas comprendre qu'un territoire qui a connu un tel boom par rapport à l'or puisse continuer à souffrir.
Pour le Centre de recherche et d'études stratégiques en Afrique centrale, Créza, la réalité dévoilée sur l'exploitation illicite de l'or le long de la rivière Oulindi n'est qu'un cas parmi tant d'autres dans la province du Sud Kivu. Rémi Kassindi, coordonnateur de Créza.
Je me rappelle qu'en 2013, nous avons publié un rapport sur les flux financiers dans les zones minières et on a fait voir que plus de 500 millions de dollars disparaissent au Sud Kivu. Global Witness s'est focalisé sur les Kakumu Mining, mais il y a tant d'autres. Quand on regarde l'or qui quitte Mukungwe par exemple, l'or qui quitte Shabunda, ce sont des millions de milieux qui disparaissent. Qui sont ces gens cachés derrière tout ça? Et je pense que les autorités du pays doivent se ressaisir et prendre les choses en main.
Notons que selon la société civile de Shabunda, jusqu'à ce 7 juillet, l'activité minière de Kunhu Mining s'est poursuivie sans désemparer sous la protection des éléments armés. Ernest Mouero, Bukavu, VOA Afrique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Au Togo, situation inquiétante pour les enfants en conflit avec la loi. Leur passage à la maison de correction, qui devrait leur être bénéfique, est plutôt un lieu d'apprentissage du banditisme pour la plupart d'entre eux, nous dit notre correspondante sur place. Donc, pour améliorer les conditions de détention de ces enfants et assurer leur réinsertion sociale, le Togo vient de lancer un projet sur les 3 prochaines années. Les enfants en contact avec la loi au Togo. Reportage de notre correspondante à Lomé, Kaye Lawson.
À la date du 31 décembre 2015, 454 enfants, dont 40 filles, étaient en détention dans des maisons d'arrêt au Togo. Même si le pays dispose d'une brigade pour mineurs, des enfants se retrouvent encore incarcérés avec des adultes. Félicité Mukantabara, chargée de la protection de l'enfance à la représentation de l'UNICEF, nous peint le tableau des enfants en contact avec la loi au Togo.
Les enfants qui entrent en contact avec la justice n'ont pas souvent les conditions les plus appropriées pour leur prise en charge. Quand ils sont en conflit avec la loi, soupçonnés d'avoir enfreint la loi, ils sont incarcérés avec des adultes, ce qui n'est pas approprié parce qu'ils apprennent beaucoup de mauvaises choses plutôt que de se reconstruire. Ils n'ont pas accès à l'éducation, ils n'ont pas accès aux jeux, aux loisirs. ils n'ont pas accès à la santé parfois. Pour les enfants victimes, normalement, ils doivent avoir une prise en charge appropriée, des soins médicaux, une prise en charge psychologique. Tout ça n'est pas au point ici au Togo.
Aucun enfant ne mérite d'aller en prison, quel que soit l'acte qu'il a posé. C'est la position que défend le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Docteur Issel Moubukari, représentant résident de l'UNICEF au Togo.
L'UNICEF préconise que tous les enfants en contact avec la loi doivent être considérés comme des victimes. D'abord, on doit réfléchir à l'avenir de l'enfant et éviter qu'il devienne un délinquant perpétuel. Et donc, l'UNICEF préconise qu'il y ait ce qu'on appelle les mesures alternatives à l'emprisonnement. Les mesures alternatives doivent viser la réinsertion des enfants. Il y a des centres d'accueil de réinsertion. Il y a surtout la réinsertion au niveau communautaire qui est l'approche que nous souhaitons la plus pour créer une plus grande responsabilisation des familles et des communautés pour que ces enfants-là ne tombent pas dans la délinquance perpétuelle.
L'atelier de parentalité positive, c'est avec ce concept que le Bureau national catholique de l'enfance du Togo, BNCE Togo, prépare la réinsertion sociale des enfants en conflit avec la loi. Alphonse Akapo du BNCE Togo.
Des cas de rencontre des parents pour échanger sur les difficultés qu'ils ont en termes d'encadrement de leurs enfants, en termes de réintégration de leurs enfants. Il y a un certain nombre de parents qui refusent, par exemple, d'accueillir leurs enfants. Les ateliers de parentalité positive que nous faisons permettent également de mettre les parents et les enfants ensemble pour que chacun puisse dire ce qu'il reproche à l'autre. C'est comme une thérapie. Si nous constatons que les familles n'ont pas les moyens, par exemple, pour pouvoir accompagner leurs enfants, nous apportons des appuis à ces familles. Par exemple, nous payons les frais de collage, nous payons les fournitures scolaires et à certains enfants à qui nous donnons des rations alimentaires.
Noël Ekpe, mécanicien de roue, a connu la prison dans son enfance. Un parcours qu'il regrette aujourd'hui.
16 ans, et un dos, et au différent.
Quand j'avais 16 ans, je vivais dans la rue. Un jour, j'ai volé les phares d'une voiture. J'ai été arrêté et déféré à la prison civile de Lomé. Le BNCE, ayant pris connaissance de mon âge, a œuvré pour mon transfert à la brigade pour mineurs, où j'ai purgé une peine de 2 ans. À ma sortie, j'ai été assisté par cette organisation qui m'a envoyé en apprentissage. M'étant rendu compte de mon erreur d'enfance, j'ai fait ma formation avec abnégation et je dispose maintenant de mon propre atelier de mécanique où j'exerce depuis 7 ans. J'ai 8 apprentis. N'eût été l'intervention du BNCE, je ne sais à quoi rimerait aujourd'hui ma vie. Je les remercie tout en mettant en garde mes jeunes frères que la prison n'est pas une expérience souhaitable. Pour mieux protéger les enfants en contact avec la loi, le Togo va mettre en œuvre un projet triennal sur la période 2016-2018. Plus de 800 millions de francs CFA vont être investis non seulement dans la formation des acteurs judiciaires, mais aussi dans l'amélioration des conditions de détention des mineurs. L'objectif est d'élaborer des mécanismes alternatifs afin de parvenir à réduire le taux de détention des mineurs et d'assurer leur réinsertion sociale. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
À présent, la Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Au Cameroun, EDF passe à la vitesse supérieure à propos de la construction du barrage hydroélectrique de Nat-Tigal. EDF a créé NHPC, Nat-Tigal Hydro Power Company, une société chargée de mener à bien ce projet estimé à près d'1 milliard d'euros. EDF reste majoritaire à 40% contre 30% détenus par l'État camerounais et 30% par une filiale de la Banque mondiale. NHPC assurera la gestion du barrage de Nat-Tigal pendant 35 ans. 131 milliards de francs CFA dédiés aux start-up, c'est le montant que le gouvernement ivoirien entend dédier à son fonds de l'innovation. Il s'agit pour les autorités qui bénéficient de l'appui de la BAD, la Banque africaine de développement, d'investir durablement dans la croissance des entreprises technologiquement innovantes en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement ivoirien. Le Gabon et Veolia sont rentrés en négociation pour prolonger leur partenariat. Selon nos confrères de Jeune Afrique, Veolia veut rester au Gabon, sa vitrine africaine. Veolia qui a fait de l'énergie l'une de ses priorités sur le continent. Attribuée en 1997, la concession sur l'eau et l'électricité par le biais de la SEG, détenue à 51% pour Veolia et 49% pour le Gabon, s'achève au second semestre 2017. L'État gabonais ne s'est jamais prononcé sur son avenir jusqu'ici.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.